et la mise sous scellé de médias interface.
Et Radio M, si elle est poursuivie, si Hassan El Khali est poursuivi comme cela, c'est sans doute parce qu'il gêne, parce qu'il fait peur, non ?
Tout à fait. Depuis l'avènement de la révolution pacifique du mouvement pro-démocratique Hirak de février 2019, il se trouve que Radio M et Maghreb émergent, les deux mécanismes, les deux outils leviers d'interface média, couvraient et invitaient des opposants, des activistes de la société civile, des défenseurs des droits humains, des droits de l'homme dans les plateaux de télévision et avoir un avis contraire de ce que le régime fait avancer comme propagande et manipulation politique. Il se trouve que le dernier îlot de la libre expression, de la libre opinion en Algérie demeurait Radio M et Maghreb émergent. Il fallait que le régime s'en débarrasse une fois pour toutes de ces journalistes, mais aussi de Radio M et Maghreb émergent.
Quelles sont les prochaines étapes sur le plan judiciaire? Il y a une possibilité, un espoir qu'il puisse bénéficier d'une libération, même conditionnelle?
Écoutez, selon le collectif des avocats de Qadi Ihsan, mais selon les informations qu'on a à notre disposition, donc il s'agit actuellement, Qadi Ihsan est sous mandat dépôt, donc l'appel a été... l'affaire était passée au niveau de la chambre d'accusation sans avertir, sans informer son collectif d'avocats, ni même sa famille de son audience, sa récupération, une violation aussi du procès équitable au niveau de la justice algérienne. Actuellement, l'instruction elle est en cours et dont la loi elle prévoit jusqu'à 12 mois de mandat de dépôt avant qu'il soit jugé. On espère que les accusations vont être abandonnées par la justice. Ça va être que rendre justice réellement à un journaliste parce que, là, en fin de compte, un journaliste, son environnement, c'est les bureaux de rédaction, c'est pas une prison.
Aïssa Ramoun, vice-présidente de la FIDH, à propos de l'arrestation de notre confrère algérien, le directeur de Radio M, Hassan El Khali. Un mot, Emmanuel Poupart, sur cette affaire?
Oui, ce témoignage fait froid dans le dos parce que on a l'impression d'avoir affaire à un criminel. Alors que le journaliste n'a fait que son travail, donc de donner une information au public. Donc ça fait vraiment peur. Et c'est le but recherché évidemment de ces pays-là qui veulent faire taire les journalistes et empêcher toute parole libre. On l'a dit tout à l'heure. La plus grande prison de journalistes aujourd'hui, c'est la Turquie. Au monde, la Turquie. Et les pays où il ne fait pas bon être journaliste, c'est le Mexique, où malheureusement, il y a un très grand nombre de journalistes tués chaque année pour faire leur travail. Et donc, il y a une forme d'impunité aussi des assassins et des commanditaires, de journalistes et leurs commanditaires, en tout cas. Et donc, le SNJ, qui est affilié à la Fédération internationale des journalistes, souhaite qu'il y ait une convention des Nations Unies qui puisse punir, les assassins de journalistes et leurs commanditaires, puisqu'il y a des gens qui courent encore, qui sont aussi des chefs d'État, notamment en Arabie Saoudite,
qui sont
soupçonnés, enfin en tout cas il y a des preuves comme quoi ils ont intenté assassiner un journaliste ou fait en sorte de le faire assassiner. Je pensais notamment à l'affaire Khashoggi.
Boudjiba Daman.
Une précision par rapport à Aïssa Ramoun pour expliquer que, pour bien montrer que le lien entre le droit d'informer et le droit de défendre, enfin les droits humanitaires sont liés. Aïssa Ramoun était président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui a été dissoute au mois de juin pour affiliation, entre autres, à la Fédération internationale des droits de l'homme, et pour avoir défendu, justement, ces journalistes et d'autres militants du Hirak. Donc, aujourd'hui, il est en exil en France, et donc on voit bien que, en faisant son travail, la Ligue algérienne des droits de l'homme a été dissoute à son insu, hein, puisque ça s'est passé en juin, ils ne l'ont appris qu'en septembre, et ses dirigeants étaient obligés de partir en exil.
Je voudrais qu'on jette un œil sur la situation au Cameroun avec l'assassinat dans des conditions épouvantables du directeur d'une radio locale qui se faisait de l'investigation et de la dénonciation. Ce journaliste s'appelle Arsène Salomon Amganik Zogo, dit Martinez, âgé de 50 ans. Il a été retrouvé mort après, semble-t-il, avoir été torturé. Je vous propose d'écouter la journaliste Henriette Ekoué qui parle des réactions au Cameroun.
Ben, un tel acharnement, certainement, parce que vu ses émissions, il épinglait des personnalités en disant « j'ai tel dossier, tel a émargé dans telle ligne budgétaire de l'État, etc. » Il a donné beaucoup d'informations sur des dossiers secrets. C'est un message d'intimidation, c'est de la terreur. C'est-à-dire que celui qui ose encore s'engager dans une presse d'investigation ou de dénonciation des puissants, sait à quoi il s'expose. Bon, certainement qu'il y aura un avant et un après, parce que cet assassinat a été tellement odieux. On espère que cette fois-ci, ce sera la bonne et qu'on saura tout et qu'on conduira ceux qui ont perpétré cet assassinat devant les tribunaux de justice.
La journaliste camerounaise Henriette Ekoué, c'est la fin de cette émission. Nous pourrions évidemment consacrer beaucoup plus de temps à cette thématique. Je remercie Ariel Halimi, avocat, membre du bureau national de la LDH.
Merci pour votre invitation.
Et merci aussi à Emmanuel Poupard, membre du SNJ, premier secrétaire général même du SNJ.
Merci à vous de l'invitation.
Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4 MHz, la radio de la Fédération anarchiste. Vous venez de suivre l'émission de la LDH depuis 21h. Depuis 19h, pardon, 21h, et c'était sur les journalistes qui sont en danger, voilà, parce que leurs sources souvent sont recherchés, il y a une protection qu'il faut assurer, et l'investigation aussi de leur travail est en danger partout dans le monde. Vous allez suivre l'émission Antenne Les Amis d'Orwell, pardon, Les Amis d'Orwell de 21h à 22h.
Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro des Amis d'Orwell.
War is peace. Freedom is slavery.
C'était la patrouille de police
qui
fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens. Did not matter, however.
Seul comptait.
Only the thought police
mattered. La police de la pensée.
Cette semaine, une émission enregistrée pour éclairer un procès qui se déroule en ce moment au tribunal judiciaire de Paris, celui de l'affaire du 8 décembre. Sept personnes donc sont renvoyées pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes. Ça s'est passé un peu comme celui des sept de Bure il y a 2 ans. On a parlé ici sur Radio Liberté dans Les Amis d'Orwell. C'est le renseignement, c'est-à-dire la direction du renseignement intérieur, la DCRI, qui est à l'origine de cette enquête, après des mois de surveillance, de micros cachés, d'écoute téléphonique. 7 personnes donc sont arrêtées le 8 décembre 2020, mises en examen aussitôt et la plupart placées en détention. Une détention provisoire pendant plus d'un an pour certains et certains même à l'isolement, dont Libreflo, l'un des inculpés dont nous avions parlé à l'époque dans cette émission. Ce procès donc a lieu cette semaine jusqu'au 27 octobre. C'est du mardi au vendredi, donc pas d'audience le lundi, à partir de 13h30, toutes les après-midi, et donc jusqu'au 27 octobre. Et pour illustrer cette affaire, une réunion publique a été organisée à Paris le 25 septembre, et sur la question précise du chiffrement des données. L'enquête judiciaire a en effet révélé que protéger ses communications en utilisant des outils comme Signal, comme le chiffrement des mails, ou encore comme l'usage du navigateur Tor, tout cela était carrément suspect, qu'utiliser des outils d'anonymat, par exemple, quand on se connecte sur Internet, présageait d'un comportement clandestin. Il faut savoir que chiffrer ces données est un droit depuis très peu de temps en France, parce que je me souviens même qu'en 95, pour utiliser à titre privé le moindre outil de chiffrement, donc le fait de faire en sorte qu'un message soit lu uniquement par le destinataire, donc les outils de chiffrement des communications, que ce soit écrites ou orales, mais en France, ça relevait d'une autorisation militaire. Avec la déferlante Internet, à la fin des années 90, et l'avènement du commerce électronique, le chiffrement est devenu tout à fait banal, et donc recommandé en privé. Et bim, en 2001, après les attentats du 11 septembre, la loi a changé un peu partout, notamment en France, où le chiffrement est resté libre, mais en revanche, a été créée une nouvelle disposition, c'est-à-dire que le refus de communiquer la clé de son système de chiffrement à un juge est devenu un délit passible de 3 ans de prison. Cette infraction est de plus en plus utilisée, d'ailleurs, dès le stade de la garde à vue. Pas de code entraîne la confiscation du téléphone. Bon, ceci étant dit, voici donc des extraits d'une discussion qui a lieu le 25 septembre, réunie donc autour de différents comités de soutien, des inculpés du 8-12, et de la quadrature du net. Et justement, d'abord, pour planter le décor, c'est un des avocats des 7 prévenus, Guillaume Arnaud, qui présente brièvement cette affaire, suivi, vous allez l'entendre, par Benoît de la quadrature du net.
Alors, en gros, c'est une affaire qui va commencer administrativement parlant, c'est-à-dire qu'il va y avoir une surveillance sur notamment une personne revenant du Rojava, où il avait pu participer à la lutte contre Daesh. De cette surveillance administrative va découler une volonté des enquêteurs qui se sentent démunis de moyens d'avancer vers ce qu'on appelle d'abord une enquête préliminaire, c'est-à-dire une enquête dirigée par le parquet pour avoir des moyens accrus de surveillance et techniques mises à leur disposition. De cette enquête va s'ouvrir encore à la demande finalement du parquet, parce que c'est comme ça que ça se fait, mais des services enquêteurs, parce qu'il faut savoir qu'en matière terroriste, on se demande si c'est le parquet qui dirige les services enquêteurs ou les services enquêteurs qui dirigent le parquet. C'est une question auxquelles il faudra un jour répondre. Mais en tout cas, à la demande du parquet, sera ouverte une information judiciaire qui va entraîner effectivement un ensemble encore de surveillance mise en place et continuer des moyens d'enquête. Il y aura un très gros trou, il ne se passera pas grand-chose, il ne se passera d'ailleurs plus rien pendant de nombreux mois. Et puis finalement, l'élément moteur de ce dossier, qui sera la sonorisation d'un camion qui sert aussi d'habitat à une des personnes renvoyées devant le tribunal, devant être potentiellement vendu et tout d'un coup le renseignement se disant qu'il n'aurait plus aucune information de ce qu'ils avaient, décide de procéder à des interpellations. Il y aura effectivement un ensemble d'interpellations le 8 décembre et puis après une information judiciaire somme toute classique avec des interrogatoires au fond. Beaucoup de gens qui seront quand même détenus dans ce dossier, des gens qui seront placés en garde à vue et libérés, des gens qui seront placés en garde à vue puis mis en examen et placés en détention, sans qu'on puisse vraiment faire la différence entre les uns et les autres, mais ça, on devra aussi en discuter durant les 4 semaines du procès. Et puis, in fine, un renvoi devant le tribunal correctionnel pour un procès qui commencera le 3 octobre, qui finira le 27 octobre sur 4 demi-journées par semaine pendant 4 semaines, ce qui nous fait dire que quand le parquet veut audiencer un dossier, il trouve vraisemblablement et les magistrats pour le faire, les greffes et les moyens. La justice ne manque pas de moyens quand le PNAC le demande.
Il y a des articles qui sont sortis ce matin et qui décrivent notamment donc, du coup, une absence de projet. Est-ce que tu veux peut-être dire un mot là-dessus ? Je trouve que c'est assez frappant.
Pour le faire, et sans caricature, parce que des fois, quand je parle, on pourrait penser que je suis moqueur ou badin, mais ce n'est pas tout à fait le cas. C'est qu'effectivement, en fait, le projet tel que défini au terme de l'ORTC ou même du réquisitoire définitif sera la lutte contre l'oppression et la destruction du capitalisme. Ce qui, effectivement, est un grand projet en soi, mais une absence de projet aussi, si on veut être un peu humble par rapport aux forces en présence actuellement.
Il a été aussi raconté, mais ça a été aussi beaucoup raconté sur les sites des comités de soutien, que malgré cette absence de projet, il y a eu toute la violence de la justice antiterroriste qui s'est exercée, et notamment des mises à l'isolement, des arrêtés condamnés pour des fouilles à nu.
C'est tout ce qui va entourer l'antiterrorisme en France, et à un moment, il faut comprendre que c'est une réelle machine et pas une machine qui s'arrêterait au juge d'instruction ou au parquet. Mais qui s'étend au service enquêteur et à l'administration pénitentiaire. On a eu le désagrément, le mécontentement, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas d'apprendre pour la personne que j'ai l'honneur de défendre qu'elle a été soumise à des fouilles à nu sans aucune décision légale pendant de nombreux mois, ce qui a pu la faire renoncer à des parloirs famille, de pouvoir simplement rencontrer les siens pendant une durée de 45 minutes alors qu'elle ne voyait personne d'autre, mais elle a pu dire ben non, parce qu'en fait, à chaque sortie de parloir, mais également avec ses avocats, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on aurait pu donner à notre cliente à l'époque, mais en tout cas, de dire qu'elle était soumise à des fouilles à nu de façon systématique, à chaque fois qu'il y avait une fouille de cellule, un parloir avocat ou un parloir famille. Le tribunal administratif de Versailles a reconnu une partie de ces fouilles illégales. On entend à ce qu'elles soient toutes reconnues illégales et de surcroît que l'État reconnaisse également au titre des dédommagements ce que peut être de vivre une fouille corporelle plusieurs fois par semaine, en l'occurrence dans le cas de ma cliente.
Oui, c'est dans ce cadre-là que la Quadrature a accédé un peu à cette affaire qui n'était pas directement liée à nos activités. Je rappelle, la Quadrature du Net vise à protéger les droits et les libertés à l'ère numérique. Les droits et les libertés des citoyens aujourd'hui dans le monde entier sont largement liés au numérique, à l'usage d'outils numériques pour communiquer, pour s'exprimer, pour échanger, pour accéder à de l'information politique. Voilà, il y a beaucoup de choses pour accéder aux services sociaux. C'est d'autres sujets d'ailleurs auxquels on s'attache en ce moment. Et donc, initialement, sur cette affaire du 8 décembre, il n'y avait pas beaucoup de liens qui nous en rapprochaient. Et puis, on a été destinataire d'un certain nombre de documents dans lesquels on a trouvé des informations assez perturbantes sur la manière dont la DGSI d'abord et le parquet d'autre part semblaient considérer des comportements que nous, depuis 15 ans qu'existe l'association, poussons largement. Par exemple, le chiffrement des communications. Le chiffrement des communications, c'est quelque chose qu'on pousse largement, qu'on utilise nous au quotidien. On utilise Matrix pour communiquer en messagerie instantanée, qui fait du chiffrement bout à bout. Pour remplacer les SMS, on utilise Signal largement. Pour permettre de travailler avec des outils un peu critiques, on utilise la messagerie, on utilise Tails, qui est un système d'exploitation entièrement chiffré, que quand vous retirez la clé de l'ordinateur à la fin, il a tout oublié, il n'y a aucune trace de ce que vous avez fait. Enfin, c'est des choses tout à fait banales et des choses auxquelles on essaye aussi d'habituer la population. On participe à des cafés-vies privés, ce qu'on appelle les cafés-vies privés, des chiffrophètes, qui sont des soirées dans lesquelles on apprend aux gens à installer Linux, qui est un système d'exploitation qui est plus libre que Windows. Windows, votre ordinateur appartient à Microsoft. Linux, vous avez la maîtrise de votre machine et elle vous appartient. Et c'est un peu ce qu'on a lu dans ces documents qui allait totalement à l'encontre de ce qu'on poussait depuis des années comme comportement et ce qu'on considère qui est finalement une manière de contrebalancer le pouvoir d'un État et de grosses entreprises sur la vie des citoyennes et des citoyens. C'est-à-dire les outils numériques sont, comme je disais, Microsoft a le contrôle de votre ordinateur, Facebook a le contrôle de vos échanges sociaux. Il peut décider si vous avez le droit de parler ou si vous retrouvez un ami d'enfance ou pas. Il le monétise même. Et finalement, ces comportements, nous, on essaie de lutter contre en poussant à l'usage de réseaux sociaux différents, etc. Et finalement, ce qu'on a trouvé dans ces documents de la DGSI, c'est une criminalisation totale de ce type de comportement. C'est ce qu'on appelle, nous, pourtant, l'hygiène numérique, et c'est une criminalisation de l'hygiène numérique, de l'usage de systèmes sécurisés de conversation, c'est-à-dire votre intimité est sécurisée, vous avez le droit de discuter avec des gens sans que l'État ne puisse accéder au contenu des conversations. On a vu régulièrement l'État souhaiter accéder aux fadettes, donc à savoir qui avait communiqué avec qui. C'est des choses qui, dans le cadre d'outils sécurisés comme WhatsApp, Signal et autres, n'est plus possible. L'État discute avec les grandes plateformes. L'État discute avec les GAFAM, avec Google, avec Facebook. Emmanuel Macron est très content de pouvoir recevoir Zuckerberg à l'Élysée et donc discute en direct avec ces grandes plateformes. Évidemment, ce qu'on voit apparaître dans ces documents, c'est que le fait de ne pas installer un système d'exploitation mobile qui soit entièrement lié à Google, donc Android, livré par votre fournisseur pour la majorité, la grande majorité des fournisseurs de téléphones mobiles, Android est fortement lié à Google, qui sait exactement où vous êtes, ce que vous installez dessus, etc. Le fait de ne pas installer des systèmes d'exploitation de ce type-là fait de vous potentiellement un clandestin. Alors, c'est le terme qui revient très régulièrement dans les documents, hein, le fait d'utiliser tous ces outils, le chiffrement des communications, l'usage de systèmes d'exploitation non liés aux GAFAM fait de vous un clandestin. Et l'usage derrière de ces communications est potentiellement porteur d'un projet terroriste, c'est-à-dire le fait que l'État ne puisse pas accéder à toutes vos communications, potentiellement, dès qu'il y a un petit soupçon parce que vous revenez effectivement du Rojava, fait porter sur vous tous les soupçons possibles. C'est-à-dire que dire que vous êtes porteur d'un projet terroriste devient une hypothèse acceptable, puisque de toute façon, on ne peut pas accéder à vos conversations, donc on ne peut pas prouver le contraire. On en arrive là. Alors, il me semblait intéressant de rappeler, de vous montrer un peu la manière dont c'est exprimé par la DGSI, qui, dans le document, exprime que, je cite, « Tous les membres contactés adoptaient un comportement clandestin avec une sécurité accrue des moyens de communication, applications cryptées, systèmes d'exploitation TELS, protocole Tor permettant de naviguer de manière anonyme sur Internet et Wi-Fi public. » Alors nous, on dit, oui, c'est des comportements qu'on pousse à avoir de manière naturelle pour tout le monde. Mais là, ça devient un comportement clandestin, mais écrit noir sur blanc par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Voilà, c'est quand même quelque chose qui nous semble extrêmement grave. Et le juge d'instruction qui écrit « L'ensemble des membres de ce groupe se montraient particulièrement méfiants, ne communiquant entre eux que par des applications cryptées, en particulier Signal, et procéder au cryptage de leur support numérique. » Voilà, donc chiffrez vos disques, et non pas cryptez vos disques, pour que si on vous pique votre ordinateur portable, la personne n'ait pas accès à toutes vos photos personnelles, à vos échanges professionnels et autres. C'est donc un comportement donc méfiant. Méfiant envers qui ? Envers le voleur potentiel ou la personne qui pourrait accéder à ces informations-là. Et en l'occurrence, là, ça se retourne contre les gens en disant que vous cherchez à protéger votre comportement face à l'État. Et pire, si vous avez suffisamment de connaissances techniques, ce qui est le cas de beaucoup d'ingénieurs en informatique, par exemple, peut-être qu'il faudrait les ficher d'ailleurs tous, parce qu'ils ont des compétences particulièrement poussées. Et donc, si vous essayez de diffuser ces informations-là, c'est-à-dire que si vous formez d'autres gens lors de ce que j'appelais effectivement des chiffrophètes, des... c'était quoi l'autre nom des techno, je sais plus quoi, enfin bon, il y a tout un tas de noms autour de ça, de ces soirées dans lesquelles en fait on échange des compétences, on aide les gens à installer Linux, à utiliser le Tor Browser, donc qui est un navigateur et non pas un système d'exploitation comme le dit DGSI dans ses documents. Ce qui est très intéressant quand même de voir le niveau technique des fois dans ces documents. Et donc le fait de promouvoir ces technologies-là, d'apprendre à d'autres gens, est un comportement qui est potentiellement un comportement délictuel, c'est-à-dire qu'on essaie de diffuser des technologies dangereuses en fait à d'autres gens. Et alors la question qu'on s'est posée d'ailleurs, enfin à la suite de ça, quand on a lu les documents, c'est finalement est-ce que la DGSI est totalement incompétente ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle comprend rien du tout à ce qu'elle dit, à ce qu'elle voit, à ces technologies-là, c'est-à-dire que c'est un peu magique, c'est-à-dire le chiffrement c'est magique, c'est quelque chose qui est utilisé uniquement par, par les potentiels terroristes. Alors je rappelle, hein, quand vous avez le petit cadenas dans votre navigateur, l'URL, sur l'adresse internet, c'est que votre conversation est chiffrée, votre échange est chiffré avec le serveur en face. Voilà. Donc déjà vous avez un comportement potentiellement terroriste parce que vous ne permettez pas à des gens qui seraient au milieu de savoir ce que vous faites sur ce site. Si vous utilisez WhatsApp, parce que beaucoup de gens utilisent WhatsApp ici, potentiellement vous avez un comportement terroriste. Enfin, c'est des comportements qui sont tout à fait banals et que la DGSI monte en épingle pour définir un comportement délictuel. Donc la question était, est-ce qu'ils sont juste totalement incompétents et qu'ils ne se rappellent pas que en fait, toutes ces technologies-là sont des technologies du quotidien aujourd'hui, que même la Commission européenne pousse à utiliser Signal et des systèmes de chiffrement. L'État lui-même, d'ailleurs, pousse à des systèmes de chiffrement. Hein, il utilise régulièrement des systèmes comme Matrix pour communiquer entre ses agents publics. Ou alors, est-ce que c'est un projet, finalement, de criminaliser des comportements pour mieux pouvoir, derrière, utiliser ces technologies ou l'usage de ces technologies-là pour criminaliser certaines parties de la population qui les utiliseraient en oubliant finalement 95-99% de la population qui les utilise au quotidien mais qui ne souhaitent pas, enfin qui ne sont pas mis à l'index par le récit qui est fait. Et on en arrive donc au récit qui est construit, un récit qui fait usage de ces technologies-là pour construire des figures. Alors, pour construire la figure de Camille, hein, justement, dont on parlait, Camille, qui est l'une des mises en examen dans cette affaire, et qui est considérée comme, finalement, la hackeuse du groupe, parce qu'elle a installé Linux et qu'elle a chiffré son disque dur. Alors, toutes les personnes qui auront installé Linux savent, d'abord, c'est très facile d'installer Linux, hein, vous mettez sur une clé USB un Linux, vous le mettez sur votre ordinateur, vous démarrez dessus, et vous faites suivant, et Linux est installé sur votre ordinateur. Voilà, très, très compliqué. Et par défaut, Linux vous propose de chiffrer votre disque. Voilà. Et du fait que Camille ait installé Linux sur son ordinateur et ait chiffré son disque dur, forcément, c'est une craque en informatique et c'est la spécialiste en technologie du groupe. Voilà. Ce récit-là nous semble quand même absolument hallucinant, hein, en connaissant un peu ces technologies-là. Ce récit-là nous semble très dangereux parce que beaucoup d'autres milieux, militants en particulier, pour être montés en épingle en tant que potentiellement clandestins, cachant leurs informations et tout, et ce qu'on considère comme effectivement totalement naturel de notre point de vue. Pour finir, le chiffrement de toutes ces conversations, le chiffrement des disques durs, sert aussi d'alibi à la DGSI. La DGSI qui a accédé à des gigaoctets de données, des gigaoctets d'informations, d'échanges, de conversations, de fichiers sur les différents disques durs qui ont été livrés finalement à la police. Mais la DGSI n'ayant pas trouvé de projet terroriste, met en avant comme raison, comme argumentaire qu'elle n'ait pas trouvé, qu'il y a usage de technologies de chiffrement. Alors même que sur l'ensemble des conversations et autres qu'elle a réussi à déchiffrer, il n'y a aucun élément, et c'est ce que rappellent les différents articles qui sont sortis ce matin dans Le Monde, Télérama ou je ne sais plus quels autres journaux, qui rappellent cette absence totale de projet terroriste, alors même que finalement l'ensemble de leur intimité, de leur vie privée a été mise à nu par les enquêteurs et enquêtrices de la DGSI face aux juges, et on n'a toujours absolument rien à se mettre sous la dent, et on attend qu'effectivement, ils nous prouvent qu'il y a quelque chose. Et c'est cet argument de dire, oui, mais c'est parce qu'ils ont chiffré leur conversation que nous n'avons rien trouvé. Voilà. Et on considère ça comme, extrêmement dangereux de la part de l'État français de se mettre au niveau d'un certain nombre de pays non recommandables, de finalement viser à tenter, et par un certain nombre de projets qui arrivent ces prochains mois, au niveau européen et au niveau français, tenter de démontrer que le chiffrement est un danger pour la démocratie, alors qu'il en est son essence même, alors que c'est grâce au chiffrement et à la protection des identités des gens qui conversent entre eux et entre elles, que ce soit sur des systèmes de messagerie instantanée, mais aussi sur des outils comme Twitter, ex-Twitter, feu Twitter, ou autres, ou sur des mastodons et le fait divers, c'est en protégeant cette vie privée que la démocratie sera plus florissante, que les échanges auront lieu, et qu'on pourra en effet dire qu'on est réellement le pays des droits de l'homme.
c'est peut-être très incité, mais effectivement, il va y avoir un grand jeu à travers ce qu'on appelle le réquisitoire définitif, qui est la liste finale du parquet, et qui sera repris assez allègrement dans le cadre de l'ordonnance de renvoi dans le tribunal correctionnel, c'est-à-dire le dernier écrit du magistrat instructeur. On va faire un amalgame entre l'utilisation des moyens de protection des données, donc qui seront utilisés effectivement par Camille sans difficulté. On n'a pas de difficulté à reconnaître qu'on converse avec WhatsApp, avec sa famille, avec ses amis, ou qu'on peut utiliser Signal pour converser avec sa famille, avec ses amis, etc. Et la clandestinité. Donc, effectivement, on va essayer de créer une minéralité en disant « Ah mais regardez, Action Directe, aussi ils étaient clandestins et on ne savait pas où ils habitaient. » Et donc du coup, de la même façon, avec les moyens de technologie, en fait maintenant, les gens à gauche font, ça répond à la même démarche. Alors, déjà, on se dit que c'est une aberration de penser comme ça, au-delà du fait que le monde évolue et que nous ne sommes plus dans les années 80 et que finalement la clandestinité des années 80 ne peut pas exister dans un monde où on est tous avec nos smartphones et qu'on les allume à des endroits ou à d'autres, d'une part. Ça nous imposerait, et ça rebondirait un peu sur la farge, de dire qu'en fait, un bon comportement serait d'avoir un téléphone branché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, parce que c'est comme ça qu'on vit bien. Ça veut dire avec une capacité à suivre les gens.
Et de l'avoir avec soi.
Et de l'avoir avec soi, évidemment, parce qu'il ne faudrait pas quand même qu'il aille ailleurs. Et donc il y a toute cette espèce de logique qui se met en place, qui est un peu compréhensible. Peu compréhensible, et surtout c'est ce qui était rappelé, c'est-à-dire d'une part ils ont accédé à 90% des données de l'ensemble des appareils qui étaient soumis à cette instruction, et d'autre part, à travers ce qu'on appelle des réquisitions, finalement le juge d'instruction, à travers Blablacar, les finances publiques, la banque, les opérateurs téléphoniques, votre compte Amélie, finalement on a une intrusion, et c'est ce qui était dit, dans l'intimité des gens, ça veut dire on connaît jour par jour, heure par heure, quasiment les déplacements et les positions des uns et des autres. Donc à un moment, on vient de me dire qu'il y a de la clandestinité parce qu'on conversait par WhatsApp, mais ne pas parler du fait que en fait, tous les déplacements étaient connus, tous les mouvements bancaires étaient connus, tous les rendez-vous chez le médecin étaient connus, toutes les finances publiques étaient connues, travail, heure de travail, etc. C'est quand même, on arrive dans un système un peu aberrant, c'est-à-dire qu'on crée une charge sans dire, mais regardez à côté toute la visibilité qui était donnée, en tout cas à ma cliente. C'était un des points. Deuxième point, et qui me tient peut-être à cœur, c'est aussi que finalement Camille est la seule femme dans ce dossier. Et je ne sais pas pourquoi, c'est à elle qu'on a donné ce rôle de hackeuse. Et que si on veut être un peu péjoratif et aussi admettre le monde un peu machiste dans lequel on vit, en fait, on lui a donné un rôle de secrétaire. Parce que c'est finalement ça, c'est une femme de chef secrétaire, et après il a fallu l'enrober au-delà du machisme et dire « Ah ben écoutez, ça doit être des compétences techniques. » On vous a rappelé qu'en gros, elle sait mettre une clé dans un ordinateur et appuyer sur « suivant », ce qui n'est pas quand même qui ne nécessite pas une grande compétence, et qu'au-delà de ça, il n'y a rien. Donc en fait, il y a deux mouvements. D'une part, vouloir nous faire croire que utiliser des moyens de protection de données serait de l'ordre du crime, et d'autre part, qu'une femme, effectivement, n'est pas bonne à grand-chose d'autre que d'être une secrétaire et une employée de bureau pour des vrais couillus qui seraient quelque chose. Donc voilà, c'est un peu pénible de pouvoir lire ce genre de choses dans un dossier, surtout quand on vient mettre un enrobage derrière. Thank you.
Vous êtes toujours dans Les Amis d'Orwell. Ce soir, on se penche sur les libertés publiques et la justice antiterroriste. Était présent donc lors de cette réunion publique du 25 septembre une personne qui a fait l'objet d'une perquisition dans une autre affaire un peu plus récente, celle du sabotage d'une usine Lafarge dans les Bouches-du-Rhône en décembre 2022. Dans cette affaire, il est question, vous le verrez, des soulèvements de la terre. Les arrestations ont eu lieu en juin, juste la veille de l'annonce par Darmanin de sa volonté de dissoudre ce mouvement. Alors la parole donc à cette personne, à Félix, qui nous raconte la perquisition qu'il a subie et la partialité de l'enquête, qui l'a incriminé pour, je cite, « inactivité téléphonique ».
Oui, bonsoir. Effectivement, moi j'ai... par rapport à la soirée au thème de ce soir, j'ai dans mes ordinateurs depuis 10 ans, j'en parlerai plus tard, mais j'ai effectivement des logiciels comme Signal, j'ai un ordinateur sous Linux, j'ai même des logiciels qui n'existent pas encore, on va dire, sur le marché. Et ça, c'est des choses qui vu le thème de la soirée, auraient pu être la raison pour laquelle j'ai été interpellé, plutôt perquisitionné chez moi à 6h du matin le 20 juin. Je rappelle le contexte, c'est la veille de la dissolution des soulèvements de la Terre. Et il y a une quinzaine de personnes qui vont être interpellées dans toute la France pour l'affaire de Sainte-Soline et l'affaire Lafarge. L'affaire Lafarge, c'est le 2 décembre 2022. Une usine qui est près de Marseille, qui va être, partiellement détruite par une centaine d'individus. Pour ne pas aller plus loin. Et du coup, on me dit assez rapidement que c'est pour cette affaire-là que je suis interpellé à 6h, donc devant ma femme. C'est ce type d'interpellation ultra violente à 6h du matin, me noter, et je vais avoir, ça va être une course contre la montre qui va commencer pour démontrer que je n'avais rien à voir avec l'affaire, et surtout pour démontrer, parce que c'est ce qui m'a taraudé pendant ces 36 heures, j'ai envie de dire l'absence totale de jugement de ces personnes qui ont ciblé ma personne. Parce que les éléments qui me sont présentés, il y en a trois. Le premier, c'est le fait d'avoir dans mon téléphone 11 individus qui ont borné sur place pendant les 5 heures qu'a duré l'action, de midi à 17h. Sur ces 11 personnes, il y a par exemple dans la région de Marseille, moi j'ai beaucoup, pour le coup, c'est vrai que j'ai été dans pas mal de logements ces dernières années, donc j'ai beaucoup circulé, mais je connais, il y avait des personnes qui étaient professionnelles, d'autres politiques, etc. Bref, assez absurde le regroupement quand on regarde en fait. Et je pense qu'en fait, ils l'ont fait après coup. Quand je dis après coup, c'est après avoir vu l'activité de mon téléphone entre midi et 17h. Parce qu'entre midi et 17h, mon téléphone, entre midi 26, je reçois un texto, et midi 14h, mémoire 42, je reçois le texto et je n'y réponds pas. Et à 14h42, mon téléphone s'éteint. Il s'avère que pour plein de raisons, je mets mon téléphone en mode avion régulièrement. Et quand je suis à table, j'essaie d'éviter, ça dépend avec qui, mais la plupart du temps, j'essaie d'éviter quand même de répondre à des textos. Du coup, j'ai compris en fait que c'était mon IN. Alors, le concept était génial. Et ils ont parlé d'inactivité téléphonique. Donc, en fait, ils m'ont dit le deuxième élément, c'est votre inactivité téléphonique. J'ai pas compris. Donc, j'ai passé 3 heures et le lendemain matin, plus la nuit, à réfléchir qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, comme je suis le cerveau, j'ai posé mon téléphone. J'ai pas répondu évidemment au texto puisque j'avais posé mon téléphone. Je suis allé faire l'action. Ensuite, je suis revenu me mettre à table. Ça, c'était l'élément le plus solide, celui qui nous a pris le plus de temps. Parce que le premier était absurde. Et le troisième, c'était une photo avec une casquette rouge. Une casquette rouge avec une barbe noire qui s'était prise par une caméra de vidéosurveillance. Ça m'est présenté au bout de 24 heures. Et on rigole tous dans la salle, honnêtement. L'avocat, y compris ceux qui enquêtent, ceux qui font l'interrogatoire, les gendarmes en question, c'est pas eux qui ont fait le ciblage, donc on a tous rigolé. Il faut savoir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que derrière ça, c'est effectivement, c'est une preuve par l'absurde que je veux dire ce soir. C'est-à-dire, c'est une preuve par l'absurde que le chiffrement n'est pas le problème. C'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'ils ne savent pas, ils considèrent que parce que j'ai éteint mon téléphone, c'est une preuve suffisante pour une perquisition, c'est-à-dire quand même entrer dans le domicile d'une personne, prendre ses téléphones, ordinateurs, je ne les ai toujours pas retrouvés à l'heure actuelle, encore sous expertise, et c'est quand même extrêmement violent, et tout ça sur du vide, donc c'est une inversion, c'est-à-dire que c'est, au lieu d'avoir une preuve, la lumière, c'est l'opacité qui devient la preuve. Voilà. En fait, c'est pour moi assez évident aujourd'hui que le chiffrement n'est pas le problème, et j'en reparlerai plus tard, mais que le problème, ce sont les outils de surveillance contre lesquels on s'est tous battus, enfin un certain nombre ici depuis déjà une quinzaine d'années, voilà. Et c'est ces outils de surveillance qui produisent ces effets-là, qui rendent possible ces erreurs. Parce qu'évidemment, la thèse la plus largement admise, c'est l'erreur dans cette affaire. Il se trouve que j'ai fait une chose avant. Je suis un militant écologiste depuis longtemps. Je ne l'ai pas fait qu'une fois d'être militant écologiste. Mais j'étais à une manifestation et on a pris ma carte d'identité à Pertuis pour sauver les terres agricoles du bord de la Durance. C'est 90 hectares. Voilà. Et c'est cet élément-là précis qui a fait que je me suis retrouvé dans la machine avec les regroupements et le montage du dossier qui a été très bien décrit précédemment. C'est un montage de dossier. La question, c'est quelle est la dose d'erreur, en fait, c'est quelle est la dose de montage. Je pense que c'est un savant mélange entre de l'ignorance, de la bêtise, et derrière, quand même, des cerveaux suffisamment intelligents pour que ça passe crème à peu près, on va dire, d'un certain nombre d'institutions. C'est pour ça que c'est ça qu'il faut rendre public, parce que c'est ça, en fait, qui fait en sorte. La conclusion, c'est que n'importe qui dans cette salle, sur la base des éléments, hein, peut se retrouver dans la situation dans laquelle j'ai été le 20 juin dernier. C'est ça le gros problème.
Et puis finalement, si ça. Tu dis c'est pas le chiffrement seulement, je dirais c'est même la paranoïa finalement des institutions qui provoque cette interprétation, ces tentatives de criminaliser certains comportements. On va chercher la petite ligne à un endroit. En fait, ils cherchent à. Voilà, il y a une paranoïa générale à essayer d'aller chercher les écolos, de dire ah bah ouais, regardez, c'est celui-là parce que il aura participé à la mauvaise manifestation, et donc on va monter en épingle son dossier. Forcément, c'est lui qui nous veut du mal, quoi. C'est un peu ça que.
Oui, peut-être juste à ajouter, mais je dis par rapport à l'affaire de Tarnac, c'est la théorie du bouc émissaire, enfin ce genre de choses. Effectivement, il y a une continuation du fait qu'il y avait pas le fait de ne pas avoir de téléphone comme étant, et puis aussi l'espèce de bouc où moi-même je me dis en fait je vais leur donner des éléments. Et plus je vais leur donner des éléments, plus ça va aller contre moi. Et donc, c'est ce qu'on m'avait dit, hein, surtout de ne rien dire, etc. Enfin, quand on te demande où tu étais à tel endroit. Je rappelle que c'était la sous-direction antiterroriste et que potentiellement, je n'avais pas le droit à un avocat il y a quelques années. Le fait d'avoir un avocat, ça a été essentiel parce que sinon, dans ma mémoire, je serais devenu fou dans ma cellule à retrouver ce que j'avais fait il y a 10 ans, sans téléphone, sans aucune trace. Enfin, c'est un exercice extrêmement difficile. Et d'ailleurs, c'est ça qui est. Souvent, enfin, je pense que c'est le passage aux aveux qui est recherché, je ne sais pas, mais l'objectif, il est clairement de vous empêcher de savoir qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là. Et c'est là, c'est grâce à l'avocat, grâce à la communication avec l'extérieur, qu'on a pu, j'ai pu reconstituer cette journée et me sortir de là. Et aussi parce que j'avais des appuis, on va dire, politiques, je le dis parce que c'est important. Moi, j'ai pu m'en sortir parce que ils m'ont demandé. Quel est votre employeur? Je travaille à la mairie de Marseille. Je dis Benoît Payan, je donne le 06. Voilà. Donc le maire de Marseille, à 6h10, il m'était prévenu. Et ensuite, je suis militant écologiste depuis 10 ans. Donc oui, la secrétaire fédérale, je la connais. Enfin, en tout cas, j'ai fait en sorte que ça fasse boum assez vite sur mon cas. Mais j'aurais pas eu tous ces éléments parce que, voilà, c'est une aide énorme. Et j'aurais peut-être fait 96 heures, voire je ne sais pas. Ma crainte, c'était évidemment ce qui est arrivé. Voilà, la cliente qui me paraît être. C'est une abomination. Et c'est vraiment, on se voit rentrer dans ce tunnel-là assez vite. Et si on n'a pas les aides nécessaires, en premier lieu évidemment un avocat, c'est très difficile de s'en sortir. Et là-dessus.
C'est juste deux réactions, parce que je ne voudrais aussi pas qu'il y ait une idée que tout d'un coup on doit prouver son innocence. On n'est pas dans ce système-là. Mais dans le système français, il peut changer, il n'y a pas de problème. On peut changer les règles du jeu. Dans ces cas-là, il y a des lois, ça s'appelle le Parlement, qui dit. Tout ça, il n'y a pas de difficulté à ce qu'on change les règles du jeu, mais la règle du jeu actuellement, c'est qu'on ne démontre pas son innocence et à l'accusation de prouver qu'on est coupable, d'une part. À partir de ce postulat-là, qui est le système de droit français qui s'applique en matière pénale, il y a une recommandation qui est, à mon avis, un droit, et plus qu'un droit qui devrait quasiment entrer dans toutes les têtes, c'est qu'en garde à vue, on garde le silence. Pourquoi on garde le silence? Parce que personne n'a accès à rien, personne ne sait le récit qui est en train de se constituer, et à démontrer ou à essayer de démontrer son innocence, dans des dossiers multiples, ce qu'on vient faire, c'est surtout enfoncer d'autres personnes qui seraient en même temps en garde à vue. Donc l'idée, ou en tout cas peut-être qu'il doit aussi participer d'un enseignement au fil des dossiers qu'on a eu à connaître, c'est que grand nombre de personnes s'en sortent en gardant le silence, parce qu'il appartiendra à la police, aux services enquêteurs divers et variés, d'effectivement, à un moment, amener à la justice des éléments assez forts pour pouvoir entraîner une condamnation. Parler, c'est aussi amener du grain à moudre, c'est pour tout un tas de raisons, généralement, se tirer des balles dans le pied, on va le dire comme ça schématiquement, mais voilà, donc le silence, c'est un droit, et jusqu'à présent, c'est l'accusation qui doit démontrer qu'on est coupable, et pas soi qui doit démontrer qu'il est innocent. Sinon, ça s'appelle le renversement de la charge de la preuve, et c'est exactement la difficulté qu'on a en matière terroriste, c'est que tout d'un coup, on oblige ou on conduit quasiment tout le monde à devoir se justifier de quelque chose. Je n'ai pas à me justifier de ce pourquoi j'éteins mon téléphone le dimanche entre 10h et 17h, juste parce que c'est ma vie et que j'ai juste pas envie d'avoir d'appel, j'ai juste pas envie d'avoir de message, j'ai juste pas envie d'être disponible à qui que ce soit à part les gens avec qui je suis disponible. Donc en fait, il n'y a pas à justifier un comportement ou un autre, que ce soit téléphonique, internautique ou autre.
Alors ça nous amène, et c'est peut-être...
Et on termine ces prises de parole par le représentant de l'organisation Nothing to Hide, qui fait des formations en matière de sécurisation des données et de protection des sources, notamment auprès des journalistes. Et on conclura avec Benoît, toujours de la Quadrature du Net.
Oui, donc nous, Nothing to Hide, on est une ONG qui travaille sur la technologie comme outil qui permet de favoriser la protection et la diffusion d'informations. Donc ça veut dire qu'on travaille avec des journalistes en France et dans des pays où la situation est un peu moins bien pour la démocratie. Et on explique, on donne les outils qui permettent de protéger les communications, qui vont permettre à des journalistes de protéger leurs sources, qui vont permettre à des militants de protéger leurs données. Par exemple, on a travaillé avec une organisation en RCA qui travaille sur le secteur minier, qui fait des relevés, qui relève des témoignages aux abords des mines pour dénoncer d'éventuelles exactions. Et en fait, il y a des milices privées qui leur récupèrent leurs témoignages, etc. Et donc, on explique comment justement exfiltrer des témoignages, comment les protéger, comment faire en sorte qu'on ne puisse pas identifier les personnes qui leur apportent ces témoignages. On travaille aussi en Ukraine, aussi avec des militants anti-guerre. Et donc, dans plein de pays, finalement, où la démocratie est un peu moins florissante qu'en France. Moi, je suis content d'être avec vous ce soir. En même temps, ça m'embête un peu parce que chez nos citoyens, on est de plus en plus souvent invités à des groupes de presse où on demande la situation en France, que pensez-vous de la criminalisation des outils de chiffrement. Donc, ça m'embête d'avoir à répondre à cette question dans un pays qui est démocratie parce que, de fait, depuis plusieurs années, on voit qu'il y a clairement une attaque sur les outils de chiffrement et sur la confidentialité des correspondances et également de vos données privées. Il semble qu'en France, on fait aussi des formations à la sécurité numérique pour des journalistes, pour des militants, pour des activistes et pour des agents du service public. Donc on a travaillé par exemple avec la protection judiciaire de la jeunesse, on a travaillé avec le service public France Télévisions, on a travaillé avec TV5Monde, avec Radio France, etc., etc. En tout, depuis 2017, depuis qu'on existe, on a formé à peu près 2500 personnes. Donc si on se met dans la tête de quelqu'un de la DGSI, on a potentiellement formé 2500 terroristes ou criminels, mais y compris au sein même de l'État, ce qui est complètement fou parce que pendant ces formations, nous, on explique comment utiliser des outils comme Tor, hein, qui est un des outils qui a été cité dans cette affaire-là, qui permet évidemment d'être anonyme en ligne, mais pas que. Il y a plein de journalistes qui utilisent Tor pour accéder à des informations sans griller le fait qu'ils sont journalistes, sans griller une enquête. Il y a plein d'outils de journalistes qui utilisent des outils comme Signal et même des outils comme Tags. Nous, on a travaillé avec plusieurs équipes qui ont fait des reportages assez compliqués d'infiltration et autres, et ils utilisaient Tags. Est-ce que le fait d'utiliser Tags quand on est journaliste c'est se mettre dans la clandestinité et c'est être un terroriste. Bien sûr que non. Et c'est pour ça que nous, l'actualisation des moyens de chiffrement, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Je ne sais pas, en plus, là, je ne voudrais pas amener une affaire dans l'affaire, un sujet dans le sujet. Il y a aussi, vous savez, il y a un projet de loi en ce moment qui va être discuté, qui va parler justement de réduire, limiter l'utilisation d'outils type VPN, qui sont des outils qui permettent de protéger votre trafic Internet, de ne pas montrer ce que vous faites à votre fournisseur d'accès. En fait, c'est inquiétant ce mouvement. Depuis plusieurs années, on voit de plus en plus d'attaques sur ces outils de chiffrement, et y compris en France. Donc c'est clairement un mauvais signe, parce que les pays dans lesquels nous, on travaille la plupart du temps, c'est des pays qui ne sont pas des démocraties, ou alors qui sont, en tout cas, des États plutôt très autoritaires. Et dans ces pays-là, les outils de chiffrement sont interdits. Dans la Tunisie de Bourguiba, évidemment, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais par exemple, un héritage, c'est que le chiffrement de vos emails est interdit en Tunisie. Donc, est-ce qu'on va en arriver à ce point-là en France ? Est-ce qu'on va faire en sorte que le chiffrement de vos messages téléphoniques avec signal soit interdit ? En tout cas, c'est clairement ce qui se passerait si nos députés avaient les cadres mentaux de la DGSI. Et j'espère pas que c'est le cas. Et c'est pour ça que ce soir, en fait, c'est important de dire que non, l'utilisation d'outils de chiffrement ne fait pas de vous des criminels. Au contraire, l'utilisation des outils de chiffrement, ça vous permet de protéger vos communications, de protéger vos échanges, et c'est vraiment un outil qui est plutôt un outil qui permet à la démocratie de s'épanouir, la protection des communications. Je veux dire, l'article 11 de la déclaration de la DUDH, c'est un article sur la protection des communications privées. Donc le chiffrement, c'est un outil qui permet justement de protéger les communications privées. Donc je vois vraiment, enfin, attaquer le chiffrement, c'est pour moi, c'est attaquer la démocratie.
On est, Stéphanie et moi, on travaillait avant pour Internet sans frontières, et il y a 10 ans, avec la Quadrature, en 2013, au moment de la loi de programmation militaire, juste après les révélations Snowden, il y avait notamment une pétition signée par près de 100 000 personnes à l'époque, contre des articles de cette loi qui permettaient des intrusions massives, en fait, dans la vie privée et les données personnelles. Pour moi, enfin, la démocratie, c'est évidemment pas seulement le droit de vote, même ça va plus loin que ça, mais dans le droit de vote, il y a quelque chose de fondamental qui a été acquis au moment de la Révolution française, parce que dans des salles comme ça, il y avait ce qu'on appelle le vote à main levée. Donc l'anonymat du vote n'était pas respecté, ça pouvait se terminer en boucherie, ce genre de choses. Et du coup, a été inventé le bulletin secret. Enfin, n'a pas été inventé, mais disons qu'il a été généralisé. Et dans les urnes, aujourd'hui, on a cette liberté de pouvoir s'exprimer, exprimer son opinion sur les affaires publiques grâce au secret de l'urne. Et ça, c'est la première chose que j'ai envie de retourner aux gouvernants qui veulent arrêter le chiffrement, c'est: attendez, mais vous voulez aussi qu'on arrête le secret du vote, parce que dans ce cas-là, on va pouvoir effectivement savoir qui a voté pour qui, et en fonction, c'est pratique d'ailleurs, moi je viens de la ville de Marseille, hein, je l'ai peut-être déjà dit, mais le clientélisme, ce genre de choses, on sait très bien où ça conduit et à quelle extrémité ça peut même amener. Donc du coup, il y a là un point essentiel, c'est qu'évidemment la démocratie, c'est pas seulement au moment du vote. Pour pouvoir voter, il faut d'abord se forger une opinion. Pour se forger une opinion, il faut avoir la liberté de se réunir, comme on le fait ce soir. Et ensuite, il faut se forger une opinion sur la base d'informations vérifiées. Vérifiées par quoi ? Par des journalistes ou par d'autres personnes qui consultent des sources. Tout ça, en fait, quand on regarde l'ensemble du processus de formation d'une opinion dont le vote n'est qu'un moment, en fait, c'est constitué c'est garanti plutôt par du secret, mais pas au sens où ce serait quelque chose lié au service secret, ou cette idée de forcément d'une intention cachée et maligne. Non, c'est quelque chose qui permet d'avoir la tranquillité d'esprit, se sentir sûr quand on va quelque part, de pouvoir se réunir en se disant pas tiens, on va tous être emprisonnés à la fin de la soirée parce que quelqu'un effectivement d'entre nous est en train de diffuser directement auprès de Darmanin ce qu'on est en train de se raconter. S'il nous écoute, tant mieux d'ailleurs qu'il apprenne quelque chose, mais je veux dire, la liberté de réunion, elle est fondamentale. Et ça, c'est vrai que la bataille qu'on a menée, et vraiment, moi je remercie la Quadrature d'ailleurs pour cette bataille qu'elle mène en France depuis des années, on a aussi mené, nous, avec Internet sans frontières, puis avec Danaï dans l'Afrique, où les logiciels de chiffrement sont testés sur les populations, en fait, depuis des années. Ils sont testés parce que c'est des populations peut-être moins importantes, parce que les gouvernements sont moins regardants, ou pour plein d'autres raisons, qui parfois inavouables. Et ces formations-là, elles ont permis, auprès de journalistes, auprès d'activistes, de parfois de protéger, de sauver des vies, parce que c'est vraiment des questions de vie ou de mort dans ces pays-là, le fait de pouvoir se protéger ces communications. Ça, c'est quelque chose dont on n'a absolument pas conscience ici, même si on commence à sentir un petit peu ce que ça peut vouloir dire que de vivre dans un pays où les communications, quand on téléphone, quand on passe des messages, ça peut aboutir à l'emprisonnement, des arrestations, qui sont en fait des coups de pression, il ne faut pas se mentir, hein, c'est des coups de pression à la société civile. Et pour moi, le chiffrement, autant c'est une garantie de la démocratie au sens où je l'ai énoncé, c'est-à-dire la formation d'une opinion avec une certaine tranquillité d'esprit pour le faire, autant je considère le chiffrement aussi comme le jeu du chat et la souris, parce que les technologies avancent en permanence. Il s'agit de, pour les groupes qui mènent des actions, des manifestations, qui organisent des manifestations, ça c'est souvent le cas, ou qui font un travail de documentation de violation de droits humains, c'est aussi une façon de gagner du temps, de se sentir plus sûr dans l'action. On est plus efficace quand on a fait le mieux qu'on pouvait pour protéger les communications au sein d'un groupe, ça c'est sûr, mais il ne faut pas se leurrer, c'est une course contre le temps qu'on ne peut pas gagner, parce qu'il y a toujours un ordinateur quantique qui va apparaître, quelque chose qui fait que, à un moment donné, oui, bah, ils vont chercher à, et ça c'est légitime, à chercher à des moyens, on va dire, mais il y a un côté qu'il ne faut pas perdre de vue, qui est en fait, fait que le chiffrement à la base est quand même né de l'art de la guerre, où il y a, on va dire, deux pays qui s'affrontent, et il s'agit d'être le plus rapide sur l'autre. Il y a ce côté-là. Quand on forme des gens, c'est aussi pour qu'ils soient plus rapides, qu'ils organisent une action plus vite, etc. C'est bien ça qui rend fou, évidemment, la DGSI ou la DGSE, mais en même temps, ça n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est de protéger les droits des personnes, et c'est de garantir le fonctionnement d'une démocratie continue, pas seulement réduite au vote, mais aussi au niveau de l'activité des journalistes, des avocats. Quand on a formé les avocats du barreau de Paris, ils sont venus nous voir. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la loi renseignement de 2015. Ils étaient tous effrayés à l'idée que leur cabinet pouvait, du jour au lendemain, tout le secret d'affaires. Enfin, vous imaginez, parce que là, on parle aussi d'affaires. Ce n'est pas que y a l'intimité, etc. Il y a aussi le secret des affaires. Des affaires, c'est-à-dire ce qui touche au plus haut niveau. Donc en fait, en cherchant à attaquer le chiffrement, à la fin, ils vont finir par déstabiliser aussi l'économie. Je rappelle que votre carte bleue fonctionne avec le chiffrement asymétrique, sans lequel tout notre système économique s'écroule. Donc ça, c'est un point vraiment. Aujourd'hui, on a une offensive qui n'est pas nouvelle, hein, mais ce qui est très inquiétant, c'est qu'elle soit systématique. En l'espace de quelques mois, on est les écologistes, les journalistes, les militants des droits sociaux qui sont directement touchés et de façon systématique. Et ça, ça interroge. Ça interroge sur, disons, quelle est l'intention qu'il y a derrière. Et je pense que, certes, il faut s'organiser, et c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Après, il faut se poser des questions sur comment on peut passer, disons, à j'ai envie de dire, une échelle supérieure pour que ces discussions qu'on a là soient largement répandues.
Je voudrais rajouter que, finalement, ce comportement de l'État a essayé, sur l'affaire du 8 décembre, à aller chercher les liens, à aller chercher des amis, à aller chercher des anciennes compagnes de la personne qui te surveillait, en allant dire finalement ce réseau social autour d'eux, autour de cette personne-là, est peut-être constitué de gens qui sont dans le même mouvement et tout. En effet, pousse finalement à se dire chiffrons tout, chiffrons nos communications, chiffrons même les relations. Il y a quelques années, c'était l'Angleterre qui souhaitait. Qui souhaitaient enregistrer, mettre dans un fichier l'ensemble du réseau social des gens, c'est-à-dire conserver ce que aujourd'hui, Facebook fait plus trop, je ne sais pas qui utilise encore Facebook, mais il y a encore 15-20 ans, on était largement sur Facebook, et ils possédaient finalement notre réseau social, on se crée notre réseau social dessus, et c'était très facile finalement d'accéder à l'ensemble de nos liens. Les gouvernements sont très friands de cette information-là. Comme je disais, l'Angleterre voulait enregistrer les réseaux sociaux des gens, donc les faire évoluer. J'imagine, au fur et à mesure, vous découvrez une nouvelle personne avec qui vous discutez dans un bar, tac, vous l'ajoutez sur un réseau social, pam, la police anglaise stockait ce nouveau contact chez vous. Et si cette personne
commettait éventuellement un acte délictuel ou était soupçonné de faire quelque chose, dans ce qu'on voit sur ce qui se passe avec l'affaire du 8 décembre, vous pouvez potentiellement vous retrouver au poste, en garde à vue, 24, 48 heures et tout. Ce qui pousse, en effet, finalement, à confirmer ce qu'on dit depuis des années, ce que tu dis là, c'est-à-dire le chiffrement de l'ensemble des communications, le chiffrement de l'ensemble de nos liens doit être mis en œuvre pour nous protéger, nous, pour protéger nos relations, parce que nous avons, je suis dans un syndicat, il y aura peut-être des actions du syndicat, je serai peut-être lié à ça, je suis dans une association qui attaque l'État régulièrement, on n'est pas très sympa avec l'État, on attaque le Conseil d'État, à la Cour de justice de l'Union européenne, potentiellement, qu'est-ce que j'entraîne finalement moi-même sur l'ensemble de ma famille, sur l'ensemble de mes amis qui pourront demain se retrouver au poste en garde à vue parce que j'aurais décidé de mener des actions contre l'État. Donc voilà, je pense que ça confirme largement la volonté générale de courir devant, d'être avant le gouvernement et de donc chiffrer l'ensemble de ces échanges, d'utiliser des outils qui permettent de masquer tous ces échanges, son réseau social, etc., etc.
Voilà pour cette discussion donc enregistrée fin septembre autour de ces deux affaires judiciaires, celle du 8-12 et de l'usine Lafarge. À ce sujet d'ailleurs, l'affaire Lafarge, les soulèvements de la Terre ont publié une brochure fort intéressante justement sur les moyens d'enquête utilisés et quelques attentions à en tirer, un document de 24 pages que l'on peut trouver sur leur site, lessoulèvementsdelaterre.org. Quant au procédé des inculpés du 8 décembre, donc je vous rappelle qu'il se déroule en ce moment, c'est donc du 3 au 27 octobre, du mardi au vendredi, donc pas d'audience le lundi, tous les après-midi au tribunal judiciaire de Paris à partir de 13h30, je crois que c'est la 16e chambre, mais vous retrouverez toutes les infos, des textes et des documents à propos de cette affaire 8-12 sur notamment Paris 8 Info ou les sites des comités de soutien comme soutien aux inculpés du 8 décembre.noblogs.org. Voilà, c'était un peu plus court que d'habitude aujourd'hui. Les amis d'Orwell, c'est donc un vendredi sur deux à 21h sur Radio Libertaire. Nos archives sont toujours sur le site de Souriez, vous êtes filmé, souriez.z.info. Le podcast se retrouve aussi sur radio-libertaire.net. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.
Sono le 22:30. Radio Libertaire, bonsoir. Bonsoir, amis de des nuits radiophoniques. Vous êtes bien en direct sur Radio Libertaire en ce vendredi soir. Et je salue mes camarades qui sont là avec moi en studio. Comme d'habitude, on part de la droite pour aller vers la gauche. Serge.
Bonsoir, Henrik.
Eddy.
Bonsoir à tous.
Je monte un peu de micro. Et bonsoir Yves.
Bonsoir.
Alors, les enfants, on a patienté tranquillement en écoutant les amis d'Orwell. Que j'avais déjà écouté chez moi.
Ah, d'accord, oui.
Mais
oui,
bon,
oui.
C'est pas grave.
Donc, t'as eu doublement peur.
J'avais lu une double page dans Le Monde.
Ah oui, alors il attaque. Il attaque tout de suite avec Le Monde.
À double page en plus.
Oui.
Sur
l'ultra-gauche, sur ce procès de ces gens ultra-gauche
ouais.
dont il parle dans la première partie.
D'accord. C'est bien ça, oui.
Oui, oui, oui.
Alors.
Je mets des guillemets à ultra-gauche, c'est de l'ironie. Enfin bon.
Je commence vite fait avec pourquoi les petites annonces de Publico ? Pas du tout. Les annonces tout court des événements de Publico. Au fait, je ne vous l'ai pas dit. Vous êtes à l'écoute donc de Libertaire en direct et c'est l'émission de Post Non Radio Show qui est là tous les vendredis soirs. Donc. Le samedi dernier, excusez-moi, j'ai tout ça. Samedi dernier, l'événement a été annulé. C'était présentation, lecture de poèmes militants de Monica Journet. Ça a été annulé. Il y a eu une fermeture exceptionnelle de la librairie. Donc, demain, 16h, projection débat, Khalifa, l'étrange milliardaire algérien de Jean-Baptiste Rivoire. Jeudi 12 octobre, 19h, concert Gaëtan Orion, c'est de la chanson. Samedi 14 octobre, 16h, les 25 ans de la revue Réfraction numéro 50. Mardi 17 octobre, 19h, Michel Bernard, présentation du livre « Quand vous me rendrez visite », accompagné de quelques chansons de la dame. Et enfin, mercredi 18 octobre, 20h, le ciné de la commune vous propose « Esperanzas » ou « L'école des pêcheurs », suivi de Paul Robin et l'orphelinat de Saint-Puy, de Saint-Puy ou Saint-Puis. Voilà. J'ai fait le tour de
ouais.
des événements. Peut-être pas la peine de les détailler. Je ne sais pas si ça a été fait ou on l'a déjà fait. Je ne me souviens plus.
Non, mais ça a été déjà présenté aussi dans d'autres émissions. Hein. Oui.
Ok, d'accord, pas de souci.
Oui, pour les auditeurs.
Non, mais c'est juste. C'est juste une piqûre de rappel.
C'est très bien. Oui, c'est très bien parce que
histoire de faire preuve de camaraderie.
Oui, bah oui, les auditeurs peuvent après aller sur le site de Radio Libertaire et puis en cliquant sur chaque thème que tu as présenté,
chaque événement, c'est désormais plus détaillé.
Plus détaillé, voilà. Oui, oui, très bien.
Plus détaillé. Bon. Quelqu'un veut-il dire quelque chose, à l'exception de Serge, mais Serge a peut-être quelque chose à dire.
Non, par rapport à la semaine dernière, tu m'avais demandé, tu m'avais dit que je te parlerais effectivement de l'opération des Restos du Cœur.
Oui, c'est vrai. Alors, commençons par toi.
Alors, bah, bien sûr, bon, j'ai pas pu écouter l'intégralité du marathon radiophonique qui était proposé par Radio Resto.
Alors, c'était vraiment un marathon, c'est-à-dire qu'à 4h du matin, il y avait encore des gens.
C'est ça, exactement. Il y avait des DJ qui faisaient des sets. Et donc, effectivement. Et grâce à cette opération-là, justement, il y a eu. Ils ont pu, en tout cas, récolter les sommes pour l'achat de 11 camions frigorifiques pour les Restos du Cœur.
En voilà. Espérant qu'ils les enferment bien à triple cadenas dans des hangars pour pas que des connards viennent faire du sabotage. Alors, on ne sait pas très bien qui vient faire du sabotage et voler tout ça.
Oui.
Non, certainement des abrutis et des gens mal intentionnés.
Voilà, en fait, c'est le bilan, effectivement, de ces 48 heures de radio non-stop animées par plein d'animateurs connus, un peu moins connus, ou plutôt connus, en général. Voilà.
D'accord, ok, super.
Voilà.
Rien d'autre à nous dire
Non, par contre, je peux commenter, puisque j'ai lu tous les articles qu'a sélectionné Yves, je pourrais les commenter facilement.
Ah, très bien.
Voilà.
Alors, quelqu'un veut-il enchaîner, embrayer ? Ne vous pressez pas. Hein.
Guy, puisqu'on vient de parler de la librairie Publico, est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer ?
Je peux annoncer quelque chose, c'est que j'ai en main déjà le numéro d'octobre 1854, Le Monde Libertaire.
Bah, c'est normal, nous sommes au mois d'octobre.
Voilà, oui, c'est tout.
Ah, super.
Tout est.
Est-ce qu'on a quelque chose croustillante
dedans?
À se mettre sous la dent.
Oui, toujours, mais j'ai pas tout lu, quoi. Les éditos, là, j'ai pas trouvé exceptionnels, donc ça sera des articles plus.
Ok,
plus performant.
Je vais donner un peu, alors si personne se précipite.
Si, bah vas-y, dis quelque chose, effectivement, si tu as quelque chose à dire avant.
Pourquoi tu voulais dire quelque chose?
Non, non, pas du tout, je voulais lancer Yves.
Ah, tu voulais lancer
Yves. Je suis une boule. moi, j'ai un article du Canard Enchaîné qui doit dater d'à peu près 15 jours. Qui s'intitule « Les gouvernements abusent du secret défense pour intimider les médias trop curieux. Macron bataille contre un texte européen visant à renforcer l'indépendance de la presse débattu le 30 octobre à Strasbourg. » Alors, nous sommes actuellement, c'est un article du Canard Enchaîné écrit par Didier Assou et Christophe Labbé. Nous sommes actuellement le 24e pays sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières.
C'est étonnant.
Et on risque d'égringoler encore quelques marches le 3 octobre. Alors, je n'ai pas suivi ce qui s'était passé le 3 octobre, mais ce jour-là, le Parlement européen a examiné un texte visant à préserver et à renforcer le pluralisme et l'indépendance des médias, c'est-à-dire un progrès pour le droit d'informer. Mais il se trouve que le gouvernement français, au Conseil européen, au nom de la sécurité nationale, s'y est opposé. Le but de la manœuvre pour Macron, c'est garder les mains libres pour faire pression sur les journalistes et les empêcher d'enquêter dès que le sacro-saint secret défense, mis à toutes les sauces, leur est opposé. Alors, ironie du sort, le même 3 octobre, au moment où la France tente à Strasbourg de restreindre la liberté d'informer, Macron, Emmanuel, lancera à Paris en grande pompe, enfin, a lancé en grande pompe, les états généraux de l'information. Donc, il y a comme un en même temps incohérent, disons.
Comme d'habitude. Hein.
Une des raisons de ce piètre score de l'Hexagone dans le baromètre de Reporters sans frontières réside dans le nombre de journalistes placés en garde à vue ces dernières années. Depuis que Macron trône à l'Élysée, une dizaine d'entre eux se sont fait cueillir à l'heure du laitier à la demande de la justice par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, au prétexte de compromission du secret de la sécurité nationale. La dernière victime, tout le monde en a entendu parler, c'est Madame Ariane Lavrieux, qui a été perquisitionnée le 19 septembre. Elle a été interrogée pendant 39 heures pour avoir révélé le 21 octobre 2021 comment des données collectées par un avion du renseignement français dans le cadre d'une opération avec l'Égypte, coopération avec l'Égypte, avaient été détournées par le Caire, conduisant à plusieurs centaines de morts de civils. Alors, des révélations qui ont failli porter un coup fatal à nos ventes d'armes avec le maréchal Sissi. Donc, on ne se fâche pas avec un bon client, disons. Mm-hmm. Donc, Florence Parly a saisi la justice en 2021. Alors, en fait, cette liberté d'enquêter au nom, enfin, que les gouvernements essayent de restreindre, se fait un petit récapitulatif. Le 4 janvier 2010, le gouvernement Fillon, donc, sur pression de la Commission européenne des droits de l'homme, avait fini par écrire un texte protégeant les sources des journalistes, avec cependant un petit problème: il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie. Alors, défense de rire dans l'intérêt du public. Le 30 novembre 2011, un nouvel arrêté ministériel sur la protection du secret défense précise que l'infraction de compromission est constituée même si la divulgation n'est pas réalisée, mais seulement si elle est rendue possible. Autrement dit, il suffit qu'un journaliste reçoive un doc estampillé secret pour risquer le cachot, c'est-à-dire 5 ans de zonzon, écrit le canard, et 75 000 euros d'amende. Donc, après les attentats de 2015, la gauche, donc sous Hollande, ne tient pas à se faire accuser de laxisme sécuritaire. Elle dégaine une loi sur le renseignement qui légalise tout un tas de moyens d'enquête jusqu'alors illégaux, c'est-à-dire sonorisation des appartements, captation à distance de données informatiques, etc. Des gadgets barbouzards qui permettent, sur simple demande de l'exécutif, de brancher aussi les journalistes trop curieux. Et pour tenter de rectifier un peu le tir, les députés de gauche déposent une loi destinée à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, mais patatras, le 10 novembre 2016, saisi par la droite sénatoriale, le Conseil constitutionnel retoque l'article 4 au motif que, trop collant pour les journalistes, il ne permet pas la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. Voilà. Et donc Macron, qui a servi sous Hollande, connaît tout ça par cœur, termine l'article. Et le 3 octobre, lui qui avait déclaré « La France sera toujours du côté de ceux qui luttent pour nous informer, qui se battent pour écrire la vérité », il n'aura sûrement pas ce genre de déclaration à ce moment-là. Bon, bref. Et alors, à côté de ça, il y a un petit encart qui est à propos du secret défense, parce que c'est assez rigolo. Le secret défense, disent-ils, est bien commun pour planquer des informations gênantes. Le premier exemple qu'il donne, c'est le stock de vaccins antivarioliques qui constitue un bon exemple. Au début des années 2000, l'État s'était vanté de disposer de dizaines de millions de doses, et quelques années plus tard, le silence est de mise et les réserves sont classées secret défense. Explication: le contenu des chambres froides s'est périmé. Elle n'abrite plus que quelques centaines de milliers de vaccins utilisables. Alors, quelle est la particularité de la règle du secret? Sa mise en branle, d'abord, n'est contrôlée par aucun magistrat ni aucune autorité indépendante. Il existe bien une commission du secret de la défense nationale, mais elle n'émet que de simples avis sur les demandes de déclassification présentées par les magistrats ayant besoin de pièces pour mener à bien leur enquête. Un journaliste qui voudrait accéder à un document protégé peut certes tenter sa chance devant la justice administrative, mais prière d'être patient. Un chercheur a dû poireauter 4 ans avant que le Conseil d'État l'autorise à consulter des archives secrètes sur le Rwanda et datant des années 90-95. Autre curiosité, l'estampille secret peut être apposée a posteriori pour empêcher un juge de fourrer son nez dans un dossier. En clair, l'intérieur ou les armées peuvent classifier un papier juste après avoir reçu la demande de communication d'un magistrat. C'est pratique. Donc, extensible à l'infini, le principe du secret défense s'étend aussi à l'identité de nombreux fonctionnaires. Une journaliste du Monde a ainsi été convoquée par la DGSI en 2019 pour avoir évoqué le rôle dans l'affaire Ben Ala.
Oui.
Par Chokri Wakrim, un militaire ayant servi dans les forces spéciales. En vertu d'une loi votée en 2016 sous François Hollande qui réprime la révélation ou la divulgation de toute information pouvant conduire directement ou indirectement à l'identification d'une personne comme membre des forces spéciales, la consoeur risquait jusqu'à 5 ans de prison. Des règles de protection juridique identiques s'appliquent aux fonctionnaires de la DGSI et de la DGSE. Alors, l'épidémie a contaminé de nombreux parquets qui désormais refusent de divulguer l'identité des juges d'instruction habilités à prendre connaissance des documents classifiés. Voilà. Il termine en disant, à ce train-là, les magistrats font finir par siéger une cagoule sur la tête au nom du secret des affaires. C'est ça que c'est une mode que les policiers n'aiment pas, les cagoules. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, à côté de ça, c'est rigolo parce que les journalistes trop curieux sont bridés, disons, pour être gentils. Mais par contre, au niveau des sous, j'ai un petit article qui dit « Secourons Bernard Arnault », parce qu'il a, en 2022, le groupe LVMH a touché, c'est les fonds pour la presse, hein, qui se montent à 110,4 millions. Ben lui, il a touché 14 millions. C'est celui qui touche le plus. Après, il y a Xavier Niels, qui est son gendre,
Niels, oui,
qui est milliardaire aussi, qui contrôle Le Monde, qui a reçu 8,72 millions. Mmh. Et qui devance aussi Bayard Presse, qui est La Croix, ou la famille Dassault. La Croix, 6 millions. La famille Dassault, c'est-à-dire Le Figaro, 5,89 millions. Vincent Bolloré, qui n'avait pas encore mis la main sur Match, où le JDD a eu un misérable coup de pouce, écrivent-ils, de 408 000 euros. Oh. Ceux qui écrivent son article, c'est j.f.j. C'est un code. une chance au fond pour pour Vincent Bolloré, puisque dans ce groupe il y a certains journalistes qui ne cessent de vitupérer Radio France et ses gauchistes payés avec nos impôts. Bref, dans la liste de 446 titres de presse récemment publiés par le ministère des Cultures figurent les grands médias écrits comme Libération, 5,4 millions. L'Humanité, 3,9 millions, presse 3,88. L'Opinion, 2,07 millions. Des sites internet, Blast, 0,83. La Lettre A, 0,38. Street Press, 0,14, etc. On trouve également de très modestes bénéficiaires, l'Éclaireur du Gâtinais, La Voix de la Haute-Marne, etc. Et Le Canard, Le Canard ne touche pas d'aide à la presse.
Il y a une chose que je ne comprends pas, Yves, c'est qu'effectivement, il y a une liste d'hebdomadaires ou de quotidiens ou de mensuels ou de mi-mensuels, enfin, etc., de publications qui... je ne comprends pas la sélection que fait l'État par rapport au financement. En plus de ça, je trouve que les grands journaux, comme donc ceux qui sont dirigés par Bernard Arnault, par exemple,
qui sont possédés.
Pourquoi ils touchent autant? Ils vivent bien, donc je ne comprends pas pourquoi.
Ils vivent pas aussi bien que ça. Hein. Ils sont souvent...
Moi, je retournerai la question, c'est pourquoi les grands groupes s'intéressent à la presse?
Oui. C'est vrai.
Donc, est-ce que quelqu'un sait sur quels critères ils sont sélectionnés?
Oui, c'est
et
ça.
Et pourquoi certains touchent autant et pas d'autres?
Oui.
C'est selon leur base d'électorat, leurs abonnés. Parce qu'ils ont souvent, ils ont souvent eu des problèmes d'argent, que ce soit Libération, Le Monde aussi en a eu, etc.
L'Humanité.
C'est une sécurité, en fait.
C'est d'ailleurs l'un des mérites de Sarkozy qu'avoir sauvé l'humanité. Pour une fois, je fais un compliment sur Sarkozy. Non, mais c'est normalement, ces aides à la presse sont censées
garantir une pluralité de l'information.
Garantir le pluralisme, voilà. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, parce qu'en Allemagne, il me semble, la pluralité, et ils n'ont pas ce système. Bon, donc, on n'a pas forcément... la seule façon. Ce qui m'énerve un peu, c'est que ces grands groupes soient possédés par des gens qui n'ont rien à voir avec, disons, le commun des mortels.
The Post Non Radio Show Radio Libertaire. Cette la programmation musicale nous voit aborder les rivages de l'Angleterre avec le label We Are Foxma Records, d'où est puisé tous les disques, les morceaux de musique qui passent ce soir, principalement deux albums, celui de Otona, Secret Radio, paru en 2022, et celui de Bendu, intitulé Sagittarius, paru en 2021. C'est un label spécialisé dans l'électro, l'électronica, la techno, l'ambiance, avec beaucoup d'ambiance et de paysages sonores et musicaux futuristes et de science-fiction, on va dire, un peu fantastique. Et puis nous clôturons dans une heure à peu près l'émission à 23h17 précisément, avec l'écoute d'un mix justement du label We Are Foxma. Donc We Are Foxma, quelque chose comme nous sommes des renards. Donc un mix du label de We Are Foxma Records pour l'émission de Kate Bosworth Dark Train Show, qui est diffusée sur la radio Warminster Community Radio, et je suppose que c'est une radio qui est sise sur internet. Et ce mix a été diffusé en décembre 2020, et à cette occasion la playlist du mix est la suivante. Il y aura, par ordre d'apparition, retourner comme ça. Ah, tu te dis, oh là là, mais quelle aisance, ce micro, quelle fluidité dans la parole, Ben oui, je sais. Je suis comme Jean-Pierre Elkabbach, un grand professionnel, non, pas comme lui. Parce qu'apparemment, il y a quand même des... Je fais une petite parenthèse, le journal Marianne, alors on pense qu'on veut du journal Marianne, qui cette fois-ci, c'est pas Acrimed, mais c'est Marianne qui se charge du cas Jean-Pierre Elkabbach, ou qui nous est présenté comme un immense journaliste, etc. Et on a le revers de la médaille avec Marianne qui nous dit pas tant que ça, parce que le monsieur était quand même un gros connard méprisant, et que de journaliste, c'était plutôt, il aimait frayer avec l'élite, et enfin bref, voilà, un mec qu'on nous a imposé pendant 50 ans, ben voilà, quoi. Bon, en tout cas, un portrait pas du tout laudateur du père Babache, et ça m'a fait bien plaisir, et on voit encore une de nos figures tutélaires du paysage médiatique français déboulonner avec autant de plaisir. Je referme la parenthèse. Donc, dans ce mix des deux fondateurs du label We Are Foxma, pour Kate Bosworth, il y aura Donavour, puis Bendu de nouveau, Tayus, Something of Paradox, Ray Nakatani, Soul Flask, Martin Christie avec un titre génial remixé qui s'appelle The End of All Things, la fin de toute chose, Raven Musen, Autona de nouveau, et pour finir, le retour de Donavour. Mais ça sera à partir de 23h17 jusqu'à minuit. Et à minuit arriveront nos amis hip-hoppers de Chourchotte, comme tous les premiers vendredis du mois. The Post Non Radio Show, c'est sur Radio Libertaire 89.4, radio que vous pouvez également écouter. Merci pour le reniflement.
Pardon.
Ah, j'étais en train de faire une annonce. Radio que vous pouvez également écouter sur internet, radio-libertaire.net et pas .org. Je me suis entendu faire l'erreur en me réécoutant la nuit.
Oui.
Et également sur anarchiste.info. Il nous reste trois petits quarts d'heure. Donc, si vous voulez parler, c'est maintenant ou jamais. Et Guy, je t'ai vu sourire à l'évocation de Jean-Pierre Babache.
Oui. Je te remercie de ne pas être tombé dans le truc habituel de dire, on l'aimait pas, mais maintenant il est mort quand même. C'était un mec bien, quoi. Ça tombe
moi,
toujours comme ça. Mais non.
Mort ou pas mort, j'aime pas.
Et c'est très bien. Voilà. Excuse-moi.
Ouais. Je vois pas. Enfin, j'ai pas à m'excuser. Je vois pas pourquoi je serais là à dire. Ça paraît très bizarre aux auditeurs qui nous écoutent que j'ai eu à apporter dans ma vie un quelconque crédit.